Dit à midi.
Les paractualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 24 avril 2018. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, place au défi sportif Altergo et c'est parti depuis hier. Changer le monde grâce aux jeux vidéo. Trisomie premier, financement public à grande échelle pour un test d'ADN. Et en entrevue, je reçois Jérôme Bobin, directeur de Humanité et Inclusion Canada, qui nous parlera de la conférence du groupe des Amis du peuple syrien qui se tient à Bruxelles aujourd'hui et demain, ainsi que Florence Tifou, agente de mobilisation au mouvement Phase, qui nous parlera de plusieurs actions qui se tiennent jusqu'en juin pour dénoncer les difficultés d'accès des personnes en situation de handicap aux services sociaux et de santé publique. Sur le site de Radio-Canada, place au défi sportif Altergo. Près de 7000 athlètes participeront au 35e défi sportif Altergo cette semaine dans la région de Montréal. Au menu, 15 sports, près de 7000 athlètes handicapés de la relève et de l'élite, un record en provenance de 25 pays. Le point d'attraction principal se trouve encore au complexe sportif Claude Robillard, où une aire d'animation a été aménagée au deuxième étage pour permettre aux amateurs de découvrir plusieurs sports adaptés. Mais un des événements à ne pas manquer sera la première édition de la classique Chantal Petitclerc, une compétition nationale de para-athlétisme sur piste. La sénatrice a été très touchée que les gens du défi l'honorent de cette façon, même si ça lui a rappelé qu'elle a pris sa retraite de la compétition internationale il y a 10 ans. Une partie de cet héritage sera sur la piste ce week-end. Sarah White ne cache pas que Chantal Petitclerc et Diane Roy ont été des inspirations pour elle. Âgée de 22 ans, Sarah White a puisé son inspiration auprès de Chantal Petitclerc et Diane Roy. Mais elle aussi est allée chercher quelque chose de tangible. Elle a récolté des médailles en roulant dans d'anciens fauteuils des deux grandes dames du para-athlétisme international. Nouvelle tirée de la presse, proche aidante, l'autre côté du miroir. Une étude de statistiques du Conseil du statut de la femme traduit pour la première fois la réalité en chiffres. Les aidants sont d'abord des aidantes et elles paient de leur personne, des témoignages et des faits. Viviane Rochelot avait travaillé 20 ans avec des personnes en perte d'autonomie. Soudain, c'est elle qui est devenue proche aidante. Viviane Rochelot, 42 ans, et c'est l'automne dernier que la vocation s'est imposée, donc à l'âge de 42 ans. Sa mère, âgée de 70 ans, habitait dans l'est de l'île avec son conjoint. Un samedi de septembre, lors d'une visite, Viviane a trouvé son beau-père mort dans son lit. Ma mère, qui avait commencé à avoir des pertes cognitives, ne s'en était pas rendue compte. La meilleure décision était que ma mère emménage chez moi. Viviane est mère de 2 filles de 8 et 14 ans en garde partagée. Dans une énorme chaîne de dominos, presque toute la famille a changé de chambre à coucher. Souvent, on attend à la dernière minute d'être épuisé pour demander de l'aide, observe Viviane Rochelot. Viviane souffre de fibromyalgie, un mal sournois aux sources mal connues. Quand tu t'occupes d'un proche, c'est là que les bobos sortent à cause du stress. Près de 6 aidants sur 10, 58 % sont des femmes. We'll be right back. La conférence du groupe des Amis du peuple syrien se tient à Bruxelles aujourd'hui même et demain, donc les 24 et 25 avril. Et pour en parler, j'accueille en studio avec plaisir pour une première fois. On s'est parlé au téléphone, mais là, c'est une première en studio. Jérôme Bobin, directeur de Humanité et Inclusion Canada. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Hélène.
Merci d'être là.
Ben, je vous en prie, toujours un plaisir.
C'est gentil parce que oui, vous êtes participant dans de nombreuses émissions à Canal M, à Accès Libre, entre autres.
Je suis déjà venu en effet plusieurs fois. C'est vrai que ces derniers temps, je me suis fait un peu plus discret.
Oui, on s'ennuyait. Alors, c'est pour ça qu'on vous a dit, venez en studio. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte se déroule cette conférence et qui sera autour de la table?
Oui, alors cette conférence qui a lieu à Bruxelles, en effet, elle réunit les pays et les organisations qui s'intéressent au sort de la Syrie. Parce que je vous rappelle que la Syrie, le conflit en Syrie dure depuis 7 ans. On a un peu plus de 500 000 morts déjà depuis 7 ans. On a des millions de personnes affectées. Et puis cette conférence, elle a pour but de réunir autour de la table tous ceux qui peuvent aider à changer la vie, le quotidien des Syriens, qu'ils soient encore en Syrie ou qu'ils soient réfugiés dans les pays avoisinants, voire plus loin. On sait très bien aussi qu'on a accueilli ici au Canada un certain nombre de Syriens. Ouais. On parle de 13 millions de Syriens qui sont touchés à l'intérieur même de la Syrie et plus de 5 millions de Syriens qui sont réfugiés en dehors des frontières de la Syrie.
C'est un nombre impressionnant.
C'est un nombre impressionnant quand on compare un peu à la province ou à la ville de Montréal. Quand on met en parallèle ces chiffres-là, on se rend compte de l'ampleur du désastre. Et pour essayer d'y remédier une fois de plus, c'est 85 pays et organisations qui sont réunis actuellement à Bruxelles pour discuter de l'avenir des Syriens.
Mais est-ce que c'est une guerre qui va finir un jour? 7 ans, c'est long. Je sais qu'il y a des guerres qui ont duré encore plus longtemps, là, mais 7 ans, c'est quand même
Ouais, ça s'installe dans la durée. C'est assez typique, en fait, des conflits actuels. Hein. Les conflits actuels ne durent de plus en plus longtemps. Et c'est pour ça que cette conférence a lieu en ce moment. Il y a deux aspects à cette conférence. Mm-hmm. Il y a un aspect diplomatique, donc justement essayer que cette guerre s'arrête enfin, qu'il y ait un processus de paix qui se mette en marche et qu'on arrive enfin à une cessation des hostilités. Et puis il y a un aspect humanitaire, les besoins humanitaires, et c'est là où une organisation comme Humanité et Inclusion a un rôle un peu plus important à jouer.
Alors quels sont ces enjeux humanitaires?
Alors nous, typiquement, vous le savez, j'en ai parlé ici quand on s'appelait encore Handicap International. Je vous rappelle qu'Handicap International est devenu Humanité Inclusion au début de cette année. Ouais. On est une organisation qui est très inquiétée et très concernée par l'usage d'armes explosives. Pourquoi? Car l'usage d'armes explosives engendre des blessures et ces blessures engendrent des handicaps permanents.
Parler des mines?
Voilà, des mines, des sous-munitions donc, qui sont larguées du ciel ou des obus d'artillerie tout simplement, qui vont détruire des édifices, des routes, des canalisations, blesser des individus.
N'importe quand.
Voilà. Et surtout, rester sur le territoire. C'est ça le problème. Et une fois qu'un engin non explosé reste en place, bien sûr, ça fait courir un énorme risque aux personnes qui sont là. Et ça en fait courir un aussi à ceux qui vont essayer de revenir un jour. Donc, c'est pour ça que nous, on est très concernés par ça. Juste pour vous donner une notion, en 2017, on parlait de 91 attaques d'artillerie par jour en Syrie. Ça veut dire 33 000, un peu plus de 33 000 dans l'année. Donc vous imaginez ce rythme incessant d'usage d'armes explosives qui, quand elles tombent, déjà dévastent à la fois les esprits et les corps. Et puis surtout, après, font peser une menace énorme.
On vit toujours avec la peur au ventre, j'imagine. Dans ce contexte-là.
Oui, c'est pour ça qu'il y a un gros aspect dans les besoins immunitaires, un aspect psychosocial, pour accompagner justement soit les victimes directes de ces armes, mais aussi l'entourage, et puis toutes les personnes qui fuient les zones dévastées, parce que vous pouvez imaginer dans quel contexte elles ont fui ça, avec quel poids psychologique elles emportent avec elles. Donc c'est un vrai travail des organisations humanitaires aussi de mettre l'accent sur les aspects psychosociaux.
Et qu'en est-il des enfants?
Alors les enfants, ils paient un lourd tribut comme d'habitude dans ces contextes-là.
On se sert d'eux aussi, d'une certaine façon?
Alors j'ai pas d'éléments sur le fait qu'on utiliserait les enfants d'une telle ou telle manière et par telle ou telle partie. Par contre, ce qui est certain, c'est que je suis en train de regarder mes notes.
Ouais.
On a en fait 12% des personnes qui sont blessées à cause du conflit qui sont des enfants déjà. Et puis surtout un élément alarmant, c'est qu'un enfant sur trois ne va plus à l'école. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une génération qui n'a plus accès à l'école, que ce soit en Syrie, bien sûr, mais aussi dans les pays avoisinants, les pays où ils sont réfugiés. Et pourquoi ils n'ont pas accès, y compris dans les pays où ils sont réfugiés? Parce qu'il y a un manque de papiers Ils ne sont pas reconnus officiellement, donc ils n'ont pas accès à un certain nombre de services, dont l'école. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur cette génération-là,
Il va en
d'avoir...
être question pendant la conférence.
Oui, il en est question, il en a été question dans les autres conférences, et c'est quelque chose aussi qui intéresse beaucoup les dirigeants canadiens, l'éducation, ne pas abandonner une génération entière dans les griffes de ce conflit.
Et comment on peut aider en terminant, Jérôme?
Ah, vous vous en doutez bien, on est des acteurs humanitaires, on est différents acteurs humanitaires, donc forcément, nous, on a toujours besoin de soutien, un soutien financier pour pouvoir mettre en œuvre nos opérations. Et puis plus particulièrement sur Humanité et Inclusion, je vous parlais des armes explosives. On a une pétition qui court depuis quelques mois, une pétition qui vise à interdire l'usage des armes explosives, des bombardements, et qui sera remise aux dirigeants, donc des différents pays dans lesquels on intervient, et aux Nations Unies à la rentrée en septembre. Et on vise 1 million de signatures à travers la planète. On est à peu près à un peu plus de 350 000, donc on est déjà bien lancé. Donc ça, cette pétition, elle se retrouve, et comme toutes les informations, sur hachi-canada.org. Et puis renseignez-vous, restez au courant de l'actualité dans tous les médias, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut être vigilant sur ce qui est en train de se passer.
Je disais, il y a des années que l'ONU a cessé de compter les morts, mais on estime que plus de 400 000 personnes ont été tuées en Syrie.
Oui, vous voyez, moi j'avais 500 000, donc on est dans ces eaux-là.
Oh,
c'est,
ouais.
C'est pas un concours à celui qui aura le plus gros chiffre, mais c'est terrible. Je voudrais juste terminer, si on a 2 secondes encore, sur l'aspect des Syriens qui fuient et qui essayent de se réfugier. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a accueilli à peu près 40 000 au Canada syriens depuis le début de l'opération. L'année dernière, les États-Unis en ont accueilli 11. Juste pour vous rendre compte de la différence entre les différents grands pays
les
et leur capacité
de
à accueillir.
Ouais. Oui. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup Jérôme Beaubain, directeur de Humanité et Inclusion Canada. Puis, on va certainement vous réinviter parce qu'on est loin d'être arrivé à nos fins. De façon positive, là, j'entends. La fin de la guerre, c'est pas pour demain.
Eh oui.
Mais il faut continuer d'espérer.
Voilà, et je reviendrai vous en parler, vous tenir à jour.
Oui, il faut déposer les armes, mais il faut pas, c'est quoi l'expression avec les bras, là? Baisser les bras,
non,
c'est ça.
Non, surtout pas.
Non, on baisse pas les bras, mais il faut déposer les armes.
Eh oui, on y travaille.
Un grand merci, Jérôme.
Merci, Hélène.
Changer le monde grâce aux jeux vidéo. Des étudiants de l'Université de Sherbrooke participent à un concours de jeux vidéo organisé par Ubisoft ayant pour thème « Changer le monde ». Au total, 19 équipes s'affrontent dans cette compétition. Les participants ont 10 semaines pour développer un prototype de jeu vidéo jouable en 3 dimensions. Ils ont également plusieurs contraintes à respecter, avoir un lien avec une cause sociale, mode multijoueur, intégration de concept art, avoir un élément adaptatif, et d'intelligence artificielle, entre autres. L'équipe sherbrookoise a développé un prototype de jeu vidéo pour sensibiliser les gens à la déficience visuelle. C'est l'histoire d'une petite fille aveugle et de son chien guide. Elle vient de recevoir son chien et doit se rendre dans un café pour chien. En chemin, elle doit résoudre des puzzles, explique Marie-Pierre Desharnais, l'une des membres du groupe. C'était un challenge vraiment intéressant étant donné que dans les jeux vidéo, on se base sur la vue, sur les images, tout ce qui est visuel pour se diriger dans le monde. Sauf que dans notre jeu, en notant cet aspect pour un des personnages parce que ça se joue à deux joueurs, on se retrouve avec un défi. Comment faire vivre aux joueurs les difficultés? On trouvait que c'était vraiment intéressant, ajoute-t-elle. 8 personnes composent l'équipe de l'Université de Sherbrooke, 7 programmeurs et un artiste. Une douzaine de jurés vont tester les prototypes en compétition. 9 prix seront remis lors d'un gala qui aura lieu lundi soir. Au total, 22 000 $ en bourse d'études seront offerts. Alors, je suis gâtée aujourd'hui. Ma deuxième invitée, devrais-je dire, puisque c'est une femme, Florence Tifou, est en studio. Bonjour. Florence, agente de mobilisation au mouvement PHASE. PHASE qui signifie personne handicapée pour l'accès aux services. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vocation, la mission de PHASE?
Oui, tout à fait. Donc, le mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services, c'est une coalition de plusieurs organismes qui travaillent avec des groupes en déficience physique, déficience intellectuelle, et troubles du spectre de l'autisme et qui vise la défense des droits collectifs. Donc, on est spécifiquement en train de viser l'accès aux services de santé et services sociaux pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Donc, en se regroupant ensemble, c'est sûr que les voix sont plus fortes.
Oui, toujours. Alors, il y a plusieurs actions qui se tiennent, justement, des voix qui se réunissent, des actions qui se tiennent et qui se tiendront jusqu'en juin pour dénoncer les difficultés d'accès aux services sociaux et de santé publique. D'ailleurs, hier, il y avait une activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, donc en ce moment, on organise une campagne qui s'appelle la campagne « Nous sommes et nous voulons l'accès aux services, une question d'autonomie ». Puis, c'est une campagne qui vise un réinvestissement majeur dans les services de santé et services sociaux pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Et l'action d'hier, c'était une action de Mémo Québec et de Libre et Sauvage qui visait l'accès à des médecins de famille et à des cliniques accessibles parce que les listes d'attente sont démesurément longues. Et une particularité encore plus spécifique pour les personnes qui sont à mobilité réduite et qui se déplacent avec un fauteuil, par exemple, c'est que la liste d'attente est longue déjà de prime abord. Et après, une fois qu'on a un médecin de famille, mais peut-être que la clinique n'est pas accessible. Une fois que la clinique est accessible, mais peut-être que la table, elle ne peut pas se lever et tout. Donc, on était réunis à Brossard devant le bureau du ministre Barrette de son comté.
Est-ce qu'il est sorti de son bureau?
Il était là? Pas là, malheureusement, non. Même si on l'avait prévenu à l'avance. Puis son bureau...
Il est très discret de ce temps-ci.
La grande surprise, mais même le bureau était très peu accessible. C'était très compliqué. On ne voulait pas laisser rentrer trois personnes en même temps. Donc, ça a été très compliqué comme action, mais on s'est fait entendre.
Oh oui, vous avez été présent. Il y aura d'autres actions. Quels sont les groupes qui vont participer à ces actions?
Donc, comme c'est une coalition de groupes, chaque groupe organise une action. Il y en a 13 en tout. Il y a Parents pour la déficience intellectuelle, le Centre communautaire Radisson. On a eu des actions avec Autisme Montréal, vraiment tous les groupes qui font partie du mouvement PHASE, en ligne à mouvementphas.org. Vous pouvez aller voir les actions de la campagne si vous voulez voir tous les groupes, parce qu'il y a 13 groupes, donc si je les nomme au complet...
Ça pourrait être long. Et que dit le gouvernement?
face à ces actions. Mais en fait, ce qu'on se fait répondre souvent quand on vient présenter les revendications, c'est « on vous entend ». Mais « on vous entend », c'est clairement pas suffisant, surtout avec les demandes qu'il y a.
Mais encore.
Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment un besoin de se faire entendre, puis il y a très peu d'actions concrètes. Il y a eu les petits cadeaux dans le budget de l'État, mais c'est vraiment insuffisant.
Bon, alors, est-ce que vous êtes quand même encouragé? Est-ce que ces actions-là, bon, vous dites, on vous répond, on vous entend. Est-ce que vous prévoyez des actions peut-être un peu plus, je sais pas, éloquentes, si je peux employer ce mot-là, pour qu'on fasse plus que vous entendre?
Je pense que les mobilisations fonctionnent, puis juste de rendre visible et d'en parler dans les médias de manière collective, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire souvent quand on va sortir dans les médias les problématiques des personnes en situation de handicap, c'est des cas qui sont individuels et qui vont... Et donc, on va s'adresser à ce cas-là spécifiquement. Donc, d'avoir une campagne qui regroupe des problématiques pour des personnes en situation de handicap au niveau physique, intellectuel ou du trouble du spectre de l'autisme, bien, ça permet de faire un lien du fait que c'est les compressions qui causent un problème systémique et pas seulement des cas individuels par-ci, par-là.
Quelles actions vous allez poser en mai et en juin? Est-ce que vous pouvez nous en énumérer quelques-unes?
Oui, donc là, la semaine prochaine, on a la 8e action de la campagne. C'est le 2 mai. C'est avec PIMO. C'est pour signé pour de l'accompagnement. Après, on a des actions le 9 mai, le 14 mai, le 16 mai et le... Et l'action de fin de la campagne, c'est le 1er juin. Donc, on va continuer à présenter les revendications. Puis, évidemment, je dis l'action de fin de campagne, mais la campagne, elle va se dérouler jusqu'aux élections pour vraiment s'assurer que nos revendications soient incluses dans les plateformes électorales des différents partis pour avoir des changements concrets.
Avez-vous bon espoir?
Bien, je pense que ce qu'on a vu des mobilisations, il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui se mobilisent par action. On voit des gens qui viennent, des visages différents aussi. Donc, je pense que juste de voir des personnes se mobiliser pour ces questions-là, c'est oui, ça donne espoir. Puis, éventuellement, le gouvernement, il ne pourra pas continuer à tourner en rond.
Donc, à faire juste vous entendre.
Oui.
Et comment participer?
Bien, sur notre site web, vous pouvez trouver l'information par rapport aux actions. Il y a la page Facebook aussi du mouvement PHAS, donc PHAS, où est-ce que vous pouvez trouver le calendrier des actions, les revendications, les articles qui sortent par rapport à la campagne. Une manière de participer, c'est de venir aux actions, évidemment. Il y a des actions, par exemple, signer la pétition.
Tout le monde est invité.
Donc, tout le monde est invité à participer, à appuyer. S'il y a des groupes, des regroupements, nos revendications, il y a déjà plus de 67 groupes et regroupements et associations qui appuient la campagne. Donc, donner un appui aussi, ça aide.
Est-ce qu'il faut être membre du mouvement ou c'est tout à fait gratuit comme participation?
Non, la participation à la campagne, c'est tout à fait gratuit. Ouais. Puis l'objectif, c'est vraiment de mobiliser le plus de personnes possible. Donc,
la force du nombre.
Exactement. Mm-hmm. Puis juste de diffuser les revendications puis de parler de ces enjeux-là, ça participe à aider aussi.
Oui. Alors Florence Tifou, agent de mobilisation Mouvement PHAS, un grand merci pour cette entrevue. Merci d'être venue dans nos studios puis bonne chance.
Merci beaucoup. Au plaisir. We'll be right back.
Dans HuffingtonPost.fr, tirant parti de technologies le plus souvent utilisées dans les véhicules autonomes, une jeune femme malvoyante a inventé une poussette destinée à prévenir de la présence d'obstacles les parents atteints d'une déficience visuelle. Le concept de Ramona Williams, 34 ans, originaire du quartier londonien de Fulham, a été travaillé par des étudiants de l'Université Imperial College afin d'en faire un objet bien réel. La jeune femme est atteinte depuis la naissance d'une série de pathologies de la vue, notamment une toxoplasmose congénitale. Du fait de son handicap, elle ne pourrait se servir d'un landau classique qui l'obligerait à tenir sa canne pliée en équilibre sur le guidon. Apprenant par le conseil municipal de son arrondissement qu'une initiative dédiée à l'innovation était organisée à White City, sur le tout nouveau campus de l'Imperial College, Ramona a décidé de se lancer. Suite à cette présentation, son concept de landau spécialement adapté aux personnes malvoyantes a été sélectionné dans le cadre d'un projet en ingénierie du design. Depuis le mois d'octobre 2017, l'équipe composée d'étudiants de deuxième année en génie biomédical collabore avec Ramona pour faire de son projet une réalité. Voilà, c'est tout pour les Paractualités. Merci à mes invités qui étaient en studio ce midi. Jérôme Bobin, directeur de Humanité et Inclusion Canada, qui nous parlait de la conférence du groupe des Amis du peuple syrien qui se tient aujourd'hui et demain. Et Florence Tifou, agente de mobilisation au mouvement FAS, qui, elle, nous parlait des actions qui se tiennent jusqu'en juin pour dénoncer les difficultés d'accès des personnes en situation de handicap aux services sociaux et de santé publique. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la technique. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain.